Chapitre 5. Quelques mois s'écoulèrent sans que Colette soupçonnât quoi que ce fût. Jacques l'avait reçue avec une joie telle qu'elle en avait été profondément émue. Quand elle lui avait appris qu'elle comptait repartir en France au bout d'un mois, il avait pleuré. Il ne voulait surtout pas être seul. Il n'y avait qu'elle au monde qu'il aimait. Il ne voulait pas non plus rentrer en France. Depuis qu'il avait été si grièvement blessé, il avait renoncé à tout dans la vie. Colette était son unique raison de vivre. Elle se laissa séduire par l'importance qu'elle sentait avoir dans la vie de ce jeune homme malade. Un jour, comme elle voulait écrire à son père, il en empêcha. « Que personne ne soit entre nous, lui dit-il. Moi-même, je n'écris plus à ma famille. » À chaque instant, il revenait sur un projet qui lui était cher. Dès que la guerre serait terminée, tous deux partiraient très loin. Colette n'était pourtant pas tout à fait heureuse. À certains moments, une inquiétude qui avait, elle le sentait, de nombreuses causes qu'elle ne savait démêler, qui, toutes prises isolément, lui semblait insuffisante et qui, pourtant réunie, la plongeait dans un profond malaise, l'envahissait. Quand elle avait quitté son père sans lui dire où elle allait, à la fois pour obéir à la lettre de Jacques et pour faire son premier acte d'indépendance, elle n'avait pas pensé que cela irait si loin. Elle s'était vue simplement reprendre avec Jacques des conversations artistiques, échanger des idées sur leur goût réciproque, avec pour seule différence avec Paris l'illusion qu'elle serait libre, que chacun de ses mouvements aurait une signification qu'il n'avait pas eue alors qu'elle était tenue par les heures des repas, par les explications qu'elle était obligée de donner, par courtoisie, sur l'emploi de son temps. En un mot, elle n'avait pas songé à se séparer aussi péremptoirement de son père, bien que dans la conversation, elle eût souvent dit qu'elle estimait être arrivée à un âge où l'on ne dépend plus de personne, sinon par les devoirs qu'on s'impose soi-même. Or, après quelques semaines où elle s'était d'autant plus complaisamment laissée isolée qu'elle y avait vu une manifestation de son indépendance, elle avait brusquement eu peur. Indispensable à Jacques, au point qu'il refusait de prendre un repas si elle était absente, en même temps qu'elle s'était mise à l'aimer beaucoup plus profondément, elle avait commencé à le considérer sous l'aspect de l'homme dont elle allait partager l'existence, mais aussi à songer à ce que cela impliquait pour l'avenir. C'était à ses yeux un grand enfant, n'ayant aucun sens des réalités. N'était-il pas dans leur intérêt à tous deux de renouer chacun avec les siens, de rentrer à Paris, de se marier, quitte ensuite à partir ensemble aussi loin que Jacques le désirerait, car il était évident que s'il rompait ainsi avec tout le monde, il finirait par se trouver sans ressources et sans famille à qui en demander. À cette première manifestation de sagesse vinrent s'ajouter bientôt d'autres considérations. Jacques devenait de plus en plus lunatique. S'il tombait plus tard gravement malade, comment le soignerait-elle? Où demanderait-elle du secours? Elle se sentait toute disposée à faire sa vie avec Jacques, mais un fond de prudence bourgeoise lui commandait de ne s'aventurer qu'au grand jour. En réalité, elle avait peur de cette pénombre vers laquelle l'attirait Jacques, et si elle ne la manifestait pas davantage, c'était uniquement parce qu'elle sentait qu'elle était en contradiction avec elle-même, ou plutôt avec ce qu'elle avait cru être. Un mois passa encore, sans qu'elle laissât paraître les craintes qui croissaient en même temps que son amour. Pour plaire à Jacques, elle n'en avait toujours pas écrit à son père, et ce qui lui avait paru plus étrange, Jacques l'avait obligé à louer en son nom un appartement meublé dont il occupait une chambre. Ce fut à ce moment que se produisit un événement qui la frappa plus fort que tout ce qui avait précédé. Un soir de juin, comme il venait de dîner sur la terrasse d'un hôtel d'Ouchy, Jacques tira de sa poche un paquet enveloppé dans du papier de soie. Il le posa sur la table, puis le poussa devant Colette. « C'est un collier, dit-il. Je voudrais que vous disiez qu'il est à vous et que vous le vendiez. »« Un collier ?»« Oui, c'est un collier de perles qui appartenait à ma mère. » Colette ne répondit pas. Toutes ses inquiétudes lui revinrent en mémoire. Puis elle songea surtout à cette question d'argent qu'elle avait jusqu'à ce jour toujours écartée. Quand elle était arrivée, elle avait voulu participer aux dépenses, mais Jacques s'y était si formellement refusé qu'elle n'avait pas insisté. Depuis, elle avait éprouvé une gêne profonde chaque fois que Jacques avait réglé quoi que ce fût pour elle. Mais il le faisait si naturellement, et d'autre part, elle était tellement décidée à devenir sa femme qu'elle s'efforçait de ne pas le remarquer. « Votre mère vous a donné ce collier ?»« Naturellement !» Cette réponse fut faite sur un tel ton qu'elle ne la convainquit pas. « Pourquoi vous l'a-t-elle donné ?» Cette fois, Jacques ne répondit pas. Au moment de quitter le restaurant, Jacques voulut que Colette mît le collier dans son sac. Elle refusa. Il insista. Elle refusa plus énergiquement encore. Elle pressentait que ce collier n'avait pas été donné à Jacques. Quelle attitude prendrait-elle donc plus tard, quand elle serait présentée à Madame Lézardouin, si, aujourd'hui, elle acceptait de se faire la complice de son fils ? Jacques ne reparla plus du collier de la soirée. Mais le lendemain, il le tira de nouveau de sa poche. Comme Colette se détournait, il dit « Je n'ai plus d'argent, Colette. Il faut absolument que vous le vendiez. » Cette fois, elle eut le courage de dire ce qu'elle pensait depuis si longtemps. Cette vie ne pouvait plus durer. Il fallait penser à l'avenir puisqu'ils s'aimaient. En admettant qu'elle vendit le collier, que ferait-il plus tard lorsque le prix du collier aurait été dépensé ? « Nous vendrons autre chose, » répondit Jacques. Elle poussa un cri. « Mais enfin, Jacques, quelle est donc cette vie que vous vous proposez de mener ?» Il pâlit. L'émotion lui fit sentir le contour de son visage. « C'est absolument nécessaire, » murmura-t-il. Colette crut que le moment était venu de ramener cet homme dans la bonne voie. « Écoutez-moi, Jacques, vous savez que je vous aime et que je ne vous donnerai que de bons conseils. » Il faut que nous rentrions à Paris. Là, nous nous marierons. Ma famille ne voudra pas. Eh bien, nous saurons alors à quoi nous en tenir. » Jacques se mit à trembler. « C'est impossible, » dit-il. Un trait de lumière traversa l'esprit de Colette. Elle comprenait à présent tout ce mystère dont Jacques s'était entouré depuis son arrivée. « Vous avez pris ce collier ?» Cette scène avait lieu dans la chambre de Colette. Jacques se laissa tomber sur le lit et brusquement, il éclata en sanglots. Il n'en pouvait plus. Depuis 3 mois, il avait manœuvré de manière à lier Colette à lui. Depuis 3 mois, il ne songeait qu'à cet homme qu'il avait vu hurler devant lui en portant les mains à son cœur au lieu de les tendre en avant pour amortir sa chute. Depuis 3 mois, il s'attachait à Colette comme une ombre, surveillait chacun de ses gestes, guettait le moment où il pourrait tout lui avouer avec la certitude d'être aimé quand même et pardonné. Ce moment n'était pas arrivé et pourtant il ne pouvait plus faire autrement que de parler. Il se redressa à demi, fit signe à Colette de s'asseoir près de lui, lui demanda si elle l'aimait, si elle l'aimait vraiment, au point de l'aimer quoi qu'il eût fait. Comme il était en âge, elle essuya son front. Il lui parla brusquement de lui-même, de sa jeunesse. Enfin, il parla de son frère. Il ne lui avait pas encore dit que celui-ci était mort. Il ne le lui avait pas dit pour que ce fait ne fût pas isolé de l'autre, pour que le jour où il le révélerait, celui-là parut une des causes qu'il avait déterminées à agir. Maintenant, il ne pouvait plus reculer. D'un trait, il raconta ce qui s'était passé dans le pavillon de Montrouge. Colette poussa un cri, s'éloigna instinctivement de Jacques. « C'est épouvantable !» cria-t-elle. Il se leva. Elle recula encore. Il lui faisait brusquement horreur. Elle répéta encore plusieurs fois « C'est épouvantable !» Puis, ouvrant la chambre de Jacques, elle s'y enferma précipitamment. Quand elle en sortit, 1 heure plus tard, c'était une autre femme. Le premier choc passé, elle avait examiné froidement et la situation et son cœur. Il y avait plusieurs solutions. Rentrer seule à Paris et abandonner Jacques à son sort lui parut pendant un instant la seule chose à faire. Mais c'eût été une lâcheté. Il était visible que, dans ce cas, Jacques n'hésiterait pas à se donner la mort. Et elle fut étonnée de la terreur que cette éventualité lui donna. Persuader Jacques de rentrer avec elle, de se constituer prisonnier, de subir le châtiment qu'il méritait, était une autre solution. Elle s'y arrêta longtemps. Mais il y avait en celle-ci quelque chose qui lui répugnait, c'était son sort à elle. Elle songeait à son père. Elle songeait que personne ne croirait qu'après avoir téléphoné elle-même au docteur Gilloin, après avoir rejoint Jacques tout de suite après le drame, elle avait ignoré pendant ces 3 mois ce qu'il avait fait. Elle songeait aussi que, tout de suite après leur retour, ils seraient séparés par les familles, par la justice, probablement pour toujours. Quant à la troisième solution, à laquelle elle n'avait pas cessé de penser confusément, cependant qu'elle examinait les autres, elle lui sembla la meilleure. Puisqu'elle avait choisi cet homme, ne devait-elle pas suivre son sort quoi qu'il eût fait ? En une telle circonstance, il serait noble de sa part de lui témoigner son amour. Elle savait pourquoi il l'avait tiré. Elle savait qu'il n'était pas un vulgaire criminel. Elle n'avait qu'à se donner à lui sans arrière-pensée et essayer de lui faire retrouver son équilibre.